Chapitre 58. Dobézit, Turquie. Les 100 000 habitants de la petite ville turque de Dobézit se sentaient un peu oubliés. Ankara se trouvait à plus de 1000 km, alors que la frontière iranienne n'en était qu'à 30 et Erevan à 40. La ville avait la réputation de vivre des trafics en tout genre. Difficile à croire pourtant. Dobézit se résumait presque à une rue, fermée à chaque entrée par une dizaine de chars, pendant que les condors de la police patrouillaient en incessants allers-retours. Les Kurdes ne semblaient même plus remarquer l'état de guerre permanent imposé à leur ville et vaquaient à leurs occupations. Dobézit était une ville bruyante. Les camions circulaient entre les motos chinoises et les charrettes tirées par les ânes. Des étals occupaient la moitié de la rue. Des femmes voilées emplissaient de provisions des sacs plastiques. Les hommes portaient la moustache sous leur casquette et cachaient leurs mains dans leurs blousons. Le climat était rude. La ville se situait à près de 2000 mètres d'altitude. Dobézit n'était qu'une banale ville rue de garnison. C'est ce que devait penser le visiteur perdu, le chauffeur routier traversant l'Eurasie du nord au sud, le militaire muté. Pourtant, Dobézit, c'était aussi le centre du monde, le tremplin pour l'Ararat. L'Arche de Noé s'affichait partout, sur les murs des hôtels et des restaurants, dans la cour de l'école, sauvant Mickey et Minnie du déluge, sculptée sur la porte du centre culturel, peinte sur le blason de la mairie. Dobézit était le point de départ de toutes les ascensions du massif de l'Ararat. Certes, ce n'était pas encore Chamonix. Les touristes, alpinistes et chercheurs d'arches n'étaient pas à plus d'un millier par an et l'office de tourisme survivait difficilement. Durant de nombreuses années, pendant la guerre avec le PKK, l'ascension du mont avait été strictement interdite. Son accès n'avait été déclaré objectif militaire de deuxième classe qu'en 2000. Depuis, l'accès pour les étrangers était sévèrement réglementé, mais autorisé. Les curieux revenaient petit à petit. Quelques tours opérateurs proposaient la grimpette sur l'Ararat dans leur programme planétaire de trekking à haute sensation. À la période la plus chaude, celle de la fonte des glaces, les guides locaux malins vendaient l'espoir d'apercevoir un morceau de poutre, et les hôtels commençaient à se remplir. L'hôtel Téhéran faisait partie de cela. Son enseigne jaune et rouge affichait fièrement la silhouette du petit et du grand Ararat. Esther traversa la rue vers l'hôtel Téhéran juste au moment où un véhicule de police blindé passait. Exprès. Rien que pour le plaisir mesquin de faire piler les flics devant elle. Ils n'allaient pas écraser une mère de famille à 2 jours des élections. Esther se tourna. Elle reconnut le flic à côté du conducteur dans le Condor. Mahir Bey, le lieutenant de police avec son chapeau de cow-boy à la con qu'il avait foutu dehors hier, ce salopard qui ne lèverait pas le petit doigt pour retrouver Aman. La femme kurde le regarda droit dans les yeux et leva bien haut son majeur. « Enfonce-toi-le » Mahir Bey continua de mâchonner son mégot. Stoïque. Putain de boulot, putain de pression. Le plus simple aurait été de liquider tout le monde, les Kurdes des montagnes comme les trafiquants mafieux de l'autre côté de la frontière. Le véhicule blindé poursuivit sa route. El Condor pasa. À chaque provocation kurde contre l'autorité turque, Mahir Bey s'amusait à fredonner dans sa tête l'air de la chanson péruvienne. Les paroles également. « I'd rather be a hammer than a nail. » Esther gravissait les marches de l'hôtel Téhéran. « Au premier », avait indiqué le taulier. Lorsqu'elle frappa à la porte, quelques morceaux de peinture écaillée tombèrent. « Entrez !» fit en kurde d'une voix masculine. « C'est ouvert !» Yalin était allongée torse nu sur le lit crasseux. Une valise était ouverte au pied du lit, comme si l'homme n'était que de passage, à peine arrivé, presque reparti. Esther le trouva fatigué. Cet homme, que tous dans les montagnes kurdes de l'Ararat surnommaient le Français, représentait pourtant son seul espoir. Esther s'avança dans la pièce. Elle tordait entre ses doigts le ticket du Dolmouche, le minibus avec lequel elle était venue d'Igdir à Dobézit.
Il faut nous aider, Yalin.
Évite de prononcer mon prénom, Esther. Les choses se compliquent en ce moment, je suis recherché, je...
Ils ont enlevé Aman, sur le marché d'Igdir. Elle regardait un jouet, une licorne.
J'ai appris. Ils sont rusés, Esther. Ils ont accumulé des indices. Ils savent ce qu'ils cherchent désormais. Ils approchent. Que veux-tu que j'y fasse?
Le camion du commerçant qui a enlevé Aman était immatriculé au Nakhitchevan. Ils ne s'en cachent même pas. Ils l'ont emmené à Ishak Pasha.
Yalin se leva. Les ombres jouaient sur les muscles saillants de son torse. Il ouvrit la fenêtre à la poussière de la rue et contempla l'Ararat. Combien d'hommes avaient dormi à Dobézit, dans une chambre d'hôtel comme la sienne,
avant d'entamer l'ascension, obsédé par la montagne, rêvant d'être les premiers à redescendre. Avec la preuve.
Qu'attends-tu de moi, Esther? Je suis seul, je suis épuisé. Je viens de parcourir la planète. J'étais à Hong Kong, en Arménie. Je peux pas être partout. Je peux pas colmater toutes les brèches à moi seul. Ils sont nombreux, organisés, informés.
Ils vont torturer Aman jusqu'à ce qu'elle parle.
Et elle parlera. Pour elle, le plus tôt sera le mieux. Peut-être l'épargneront-ils. Ils auront besoin d'elle pour les guider sur la montagne.
Qu'allons-nous devenir?
Vous êtes les derniers témoins. Vous devez fuir. Toute la tribu. Changez de lieu. La montagne est vaste.
Tu sais bien que c'est impossible.
Yaline renversa sa tête en arrière, faisant craquer ses cervicales.
Que proposes-tu? Que je parte à l'assaut d'Ishak Pacha? Seul?
Yaline, on raconte qu'ils sont devenus fous. Ils ont aussi enlevé des filles, les plus belles de la région. On a retrouvé leurs cadavres dans l'Arax. Ils pillent les reliques. Ils détruisent tout ce qui a de la valeur.
Je sais cela, Esther. J'ai fait ce que j'ai pu. Je les ai attaqués, par surprise, là où ils ne s'y attendaient pas. J'aurais fait autant de mal, je crois, qu'un temps sur la peau d'un éléphant.
Esther s'écroula sur le lit. C'était cela leur dernier espoir? Cet homme traqué, fatigué, isolé. Ses yeux gris s'embuèrent de larmes.
Yaline, s'il te plaît, fais-le. Fais-le pour moi.
Yaline ne quittait pas la montagne du regard. Des souvenirs affluaient. Il avait 13 ans, alors. Esther devait en avoir moins de 30. À l'époque, il la trouvait incroyablement belle, avec ses prunelles couleur de basalte, ses cheveux noirs qui descendaient jusqu'aux fesses. Souvent, au bord du glacier, sans pudeur, Esther se lavait nue, en passant simplement sur sa peau gelée des poignées de neige fondue. Son premier fantasme. Combien de fois s'était-il caressé en pensant à elle, dans les grottes d'Ahora, face au petit Ararat? Comment l'avouer aujourd'hui à cette femme grande et forte, presque chevaline, aux traits creusés par 40 hivers? Yaline se retourna. Les immenses yeux gris d'Esther, en revanche, n'avaient pas perdu leur pouvoir de séduction. Il s'efforça de les éviter pour ne pas se laisser attendrir.
« Je suis désolé, » dit Yaline. « Tu connaissais les règles de prudence. Aman les connaissait également. La réalité est cruelle, Esther, mais le secret que nous protégeons tous est plus important que la vie de ta fille. »
Le ticket de Dolmouche se déchira en lambeaux entre les doigts d'Esther.
« Comment peux-tu dire cela, Yaline ?